Docteur Jaime Kramo, bonjour.
Bonjour, Monsieur Koumé.
Docteur Jaime Kramo, récemment, le ministre du budget et du portefeuille de l'État, le ministre Moussa Sanogo, a présenté à la Commission des affaires économiques et financières, la CAF, de l'Assemblée nationale, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle de la tranche 2024-2026. À quoi ça sert ce document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle?
Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle est un document qui encadre un peu la préparation du budget annuel pour chaque année. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme, il faut élaborer ce document qui fait un peu des prévisions au niveau des grands agrégats macroéconomiques.
Mmh. Vous parliez du budget programme. C'est quoi sa particularité?
Oui, le budget programme, comme son nom le dit, c'est un budget qui est un outil de planification qui est le budget pour assurer la mise en œuvre des différents programmes. Donc ici, il y a une question d'associer les performances économiques aux budgets qui sont utilisés.
Quels sont les avantages du budget programme?
Il y a eu le recours au budget programme parce qu'on s'est rendu compte que les différentes politiques qui ont été mises en œuvre n'ont pas permis d'atteindre les résultats escomptés. Donc, pour corriger cela, il y a le recours au budget programme, comme je l'ai dit ici, qui va essayer d'associer un peu les résultats des performances économiques aux différents budgets qui seront exécutés. En plus, il y a des programmes qui s'exécutent sur plusieurs années. Par exemple, on peut avoir un programme qui va courir sur 2 ou 3 ans. Alors qu'initialement, avant, on faisait avec un budget annuel, donc on vous donne le budget juste pour exécuter les différentes activités pour l'année donnée. Alors qu'avec le budget programme, on fait la planification sur ces 3 prochaines années et on vous décaisse les fonds qui sont liés aussi aux résultats que vous réussissez à réaliser.
Alors, justement, pour revenir à ce document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle de la tranche 2024-2026, ce document donc s'appuie sur une prévision de croissance du produit intérieur brut estimé à 7,1%. Est-ce que c'est un taux de croissance ambitieux ou qui est réalisable?
Effectivement, on peut dire que c'est un taux de croissance ambitieux, mais quand on prend en compte les performances du pays avant l'avènement de la COVID, on peut dire que c'est un taux réalisable. C'est que tous les voyants seront verts d'ici 2026 parce que l'inflation qui sera autour de 2,4% en dessous de la norme communautaire de 3%, le déficit budgétaire aussi qui sera ramené à 3% et aussi on voit une augmentation de la pression fiscale. Donc on peut dire qu'avec ce document, on sent que tous les voyants sont ouverts. Mais ce qu'il faut, il faut ici retenir, c'est que c'est un document qui fait sur la base d'hypothèses. On se dit que si l'économie continue d'évoluer comme ça a évolué ces dernières années, voici ce qu'on peut avoir.
Alors cet optimisme m'a affiché par les autorités de la Côte d'Ivoire, ça s'appuie sur quoi?
On prend l'activité économique, on essaie de voir comment les différents agrégats ont évolué et on fait l'hypothèse que ces agrégats continuent d'évoluer tels qu'ils ont évolué récemment. Donc voici pourquoi ce document retrace d'abord les performances économiques du pays pour ces dernières années avant de faire une projection dans le futur. Donc on se dit que l'économie va continuer d'évoluer telle qu'elle évoluait ces dernières années. Et sur cette base, on se dit, bon, si on garde les mêmes évolutions dans les différents secteurs d'activité, alors on peut avoir un taux de croissance de 7,1%. Et à partir de là, on va essayer de faire tout ce qui est la projection pour les autres années.
Mmh. En tout cas, en termes de projection, parlant de l'inflation, l'objectif, c'est de réduire cette inflation à 2,4% en dessous, en tout cas de la norme communautaire. Déjà, commentaire par rapport à cet effort-là de réduction?
Comme vous l'avez dit, et comme c'est indiqué dans le document, les 2,4%, c'est une moyenne pour les 3 prochaines années. C'est-à-dire qu'on peut avoir des taux de 5, mais si on arrive à venir à 1%, vous voyez qu'avec la moyenne, on peut se retrouver autour des 2,4%. Et comme vous l'avez dit, nous sommes dans une situation où, au niveau mondial, il y a l'inflation. Donc, c'est dit 2,4%, je peux dire, c'est, comme on l'a dit, c'est un peu ambitieux. Mais il va falloir maintenant savoir quelle est la politique qui sera mise en œuvre pour pouvoir ramener ce taux qui est autour de 5% aujourd'hui à 2,4% en moyenne. C'est vrai que même quand on dit une moyenne, on peut avoir des taux de 5% pour une année et puis pour les autres années, avoir des taux faibles, ce qui va faire qu'on va avoir une moyenne de 2,4%. Mais il est important de savoir quelle est la politique mise en œuvre pour pouvoir avoir ces 2,4%, sachant qu'au niveau international, nous avons une pression inflationniste.
Alors, mais 5,4% en mai 2023 déjà, est-ce qu'on peut dire que les efforts sont faits pour contenir cette inflation-là?
Oui, on peut dire oui et non. Oui, parce que nous voyons que les taux directeurs de la BCAO ont été révisés. Viser ces taux ne va pratiquement pas influencer grande chose au niveau de l'inflation. Maintenant, comment vont évoluer les récoltes au niveau des produits de grande consommation. Avec la pluviométrie, je peux dire aussi balance dans les pays sahéliens, aussi avec les crises qui affectent la production agricole. Voici un peu des éléments qui, je peux dire, vont influencer ce niveau d'inflation. Et au niveau mondial aussi, avec la crise ukrainienne, ça se poursuit. C'est vrai qu'à ces derniers temps, le prix du baril du pétrole connaît une certaine stabilisation, mais vous voyez que ce sont les éléments qui influencent beaucoup nos différents prix. Donc vraiment, il faudrait qu'on ait des politiques vraiment assez volontaristes au niveau de l'agriculture pour avoir une production assez importante et aussi contrôler un peu l'inflation qui sera certainement importée avec la hausse du prix du baril du pétrole.
Un élément sur lequel ce document insiste, c'est donc les efforts pour la réduction du déficit budgétaire qui passerait de 4,1% du PIB en 2024 à 3% en 2025. Le déficit budgétaire, quelle est sa conséquence sur notre économie déjà?
Le déficit budgétaire, c'est un peu comme si à la maison on dépense plus que nous avons de ressources. Donc c'est un indicateur qui montre un peu les performances de l'économie en termes de mobilisation des ressources internes et aussi voir comment l'économie est financée. Donc ici, si nous continuons à aller avec des déficits plus importants, cela aussi va jouer sur la crédibilité de notre économie. C'est l'information qu'on envoie, on peut dire aux investisseurs ou autres, quelle est la solidité de notre économie et comment cette économie est financée. Est-ce qu'on va toujours concurrencer le secteur privé sur le marché financier? Donc voici des signaux qu'on envoie aux investisseurs.
Alors en termes de mobilisation déjà, il y a une prévision d'augmentation du taux de pression fiscale et qui passerait de 14,1% en 2024 à 14,7% en 2025 et pour atteindre donc 15% pratiquement en 2026. Est-ce que cela s'explique, cette hausse du taux de pression fiscale? Est-ce que c'est nécessaire?
Non, au fait, à ce niveau, il y a entre le privé et puis le public, en termes de taux de pression fiscale, je peux dire, la définition qui change un peu qu'on se trouve d'un bord d'un autre. Chez le privé, le taux de pression fiscale, c'est ce que vous venez de souligner, va montrer quel est le poids de la pression fiscale sur les économies. Mais chez le public, ici, quand on parle de taux de pression fiscale, on rapporte les recettes fiscales, on rapporte ça au PIB pour savoir peut représenter ses recettes fiscales dans le PIB. Donc, c'est cette évolution. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir une augmentation des recettes fiscales sans avoir une augmentation des taux. C'est-à-dire qu'on peut garder les mêmes taux, mais mobiliser davantage en mobilisant auprès du secteur informel, en mobilisant au niveau des niches, doit permettre d'augmenter ces différents taux en passant de 14,1 à 15,1. Mais il y a l'autre option où on peut augmenter les différents taux. Et c'est là que le secteur privé est un peu réticent. Donc, ici, le taux de pression fiscale, donc, il est fait question ici. C'est les recettes fiscales rapportées au PIB et qui augmentent. Donc, cela veut dire que soit c'est les recettes qui vont augmenter plus vite que le PIB, soit on peut avoir ces taux, ce taux de pression fiscale, mais ça ne veut pas dire qu'on va augmenter le taux d'imposition au niveau du secteur privé.
C'est l'élargissement de l'assiette fiscale, on comprend.
Effectivement, l'élargissement de l'assiette fiscale, ça permet d'avoir plus de ressources. Donc, en rapportant les ressources au PIB, ça nous permet d'avoir des taux qui deviennent de plus en plus élevés. Et là, on reste encore en dessous de la norme communautaire qui veut qu'on soit autour de 20%. Donc, il y a encore de la marge.
Le niveau d'endettement du pays aussi préoccupe les autorités. En tout cas, si on s'en tient aux propos du ministre Sassanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État, en tout cas, le niveau d'endettement de 60,8% en 2024 à 59,5% en 2026, mais on note que c'est toujours en dessous du seuil communautaire de 70%, mais 60% de niveau d'endettement par rapport au PIB, est-ce que pour vous, ce n'est pas handicapant?
Oui, moi, comme je le dis toujours, s'endetter, c'est un instrument de politique économique, mais tout dépend de l'utilisation dont on fait de la dette. Donc pour moi, à 60%, bon, c'est pas ça qui est le plus important pour moi. Le plus important, on s'endette pour investir dans quoi? Est-ce que là où on met notre argent, ça nous permet de créer de la richesse pour rembourser cette dette? Et je pense que c'est cette question qu'on doit se poser plutôt que de faire le fétichisme des chiffres pour dire que, comme on dit, on doit être à 60%. Si on est à 60%, on fait mieux, mais pas forcément. Les 60%, là, vous utilisez ça comment? Ça sert à financer quoi? Est-ce que ce sont des investissements rentables? Donc voici un peu les questions pour lesquelles on doit chercher à avoir des réponses et non faire le fétichisme des chiffres.
L'important, c'est l'utilisation, en tout cas, on a compris. Pour terminer, il y a aussi un aspect. Le projet de budget de l'État pour l'année 2024 prévoit une hausse de 20,9% par rapport à 2023. Et donc, le budget sera de 14 088,5 milliards de francs CFA. En 2025, 15 301 milliards de francs CFA. Et puis, le top, ce serait 16 627,5 milliards de francs CFA en 2026. Les budgets ivoiriens, depuis en tout cas quelques années, augmentent chaque année. Est-ce que pour vous, cela est normal? Les besoins sont colossaux pour amener donc l'État ivoirien à augmenter chaque année son budget. Est-ce que ça s'explique dans ce contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui?
Oui, avec le dynamisme économique que nous avons, avec le PIB qui augmente, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir des budgets aussi qui suivent. Parce que c'était le contraire, c'est ça qui a nous étonné. Parce que lorsque le PIB augmente, ça va de soi que les recettes aussi de l'État doivent augmenter. Donc, c'est de façon mécanique, les recettes augmentent parce que le PIB augmente, puisque l'impôt est lié à la production. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait des taux de croissance et des taux de croissance du budget aussi assez élevés. Mais comme je l'ai dit, il s'agit de la mobilisation vraiment de ce budget. Là, il faut mobiliser les ressources internes. C'est à cela qu'il faut se poser la question. Sinon, si on a un budget qui augmente et dont une partie importante provient de l'endettement, on ne fait pas réellement d'efforts. Mais lorsqu'on a un PIB qui augmente régulièrement, qui depuis ces dernières années connaît une hausse régulière, il va de soi que les ressources internes aussi suivent pour qu'on puisse tirer profit de cette hausse du PIB.
Est-ce que ces différentes augmentations traduisent le dynamisme donc de l'économie ivoirienne? C'est comme ça qu'on doit le comprendre?
Ce qu'on doit comprendre, c'est que le dynamisme de l'économie ivoirienne est tiré par les investissements publics. Donc, ça veut dire que si on veut garder le dynamisme que nous avons, il faudrait qu'on continue davantage de faire les investissements publics. Donc, pour faire les investissements publics, l'État est obligé de mobiliser assez de ressources pour pouvoir tirer cette croissance. Donc, voici un peu le lien. Donc, si nous voulons toujours avoir ce dynamisme que nous avons actuellement, il est indispensable que l'État continue d'investir davantage. Et pour le faire, il faudrait que aussi l'État puisse augmenter aussi son budget. Donc, voici un peu le lien entre ces deux agrégats.
Mais certains économistes estiment que aussi tirer l'économie par des investissements publics, cela n'est pas forcément la solution, puisque le PND aussi, hein, de son côté, mise sur les opérateurs privés, ensuite le secteur privé, pour jouer un rôle prépondérant donc dans le développement de la Côte d'Ivoire. À quel moment l'État va, je dis, faire plus de place?
Nous avons des économies en développement. Comme vous voyez, nous avons tout est concentré à Abidjan.
C'est cela.
Donc aujourd'hui, si l'État demande à un investisseur d'aller investir dans une zone industrielle à Mans, il faudrait que l'État mette les moyens nécessaires, les infrastructures nécessaires à disposition de cet investisseur privé. Donc c'est indispensable parce que nous avons des économies qui sont déjà déséquilibrées où nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle. Aujourd'hui, si on dit à un investisseur d'aller investir à Séguéla, il faudrait que ce dernier puisse avoir les infrastructures nécessaires pour pouvoir réaliser son activité. Si tout le monde est concentré à Abidjan, c'est parce que toutes les infrastructures sont concentrées à Abidjan. Donc, déjà, pour que le secteur privé puisse investir, il faudrait que l'État trace déjà les sillons. Comme on le dit, la route précède le développement, l'infrastructure précède le développement. Donc, il faudrait que déjà l'État trace les sillons pour que le secteur privé aussi puisse venir s'insérer. Il y a des domaines dans lesquels aussi le privé n'a pas forcément intérêt à y investir. Donc, il faudrait que ce soit l'État qui soit le premier à investir.
En tout cas, merci pour votre éclairage, docteur Germain Cramaux. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Vous êtes aussi chercheur donc à la CAPEC. Merci pour ces éclairages sur donc le document qui a été présenté récemment donc aux députés par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Et c'est le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle, donc de la tranche 2024-2026. Merci à vous, docteur.
Merci, M. Comé.